un traité biblique. Un dimanche ensoleillé d'hiver, je suis témoin de la scène suivante. Un jeune garçon fait de la patinette sur une des pistes cyclables du Pâquier. Ses parents marchent à côté. Un adulte en roller arrive par derrière plus vite que le jeune garçon et le dépasse de près. Le jeune dit à sa mère « Maman, tu as vu, il m'a frôlé de près !» Et sa mère lui répond en criant « La prochaine fois, tu lui donnes un grand coup de pied quand il passe !» Certaines réactions de nos contemporains nous laissent parfois, ou même régulièrement, pour ne pas dire assez souvent, pantois. Nous qui nous disons croyants, chrétiens, aux valeurs a priori définies par l'amour, le pardon, nous nous sentons de temps à autre en total décalage avec des paroles, des réactions ou des actions dont nous sommes les auditeurs ou les témoins au quotidien. Pour citer une action plus récente, la banderole contre les ch'tis pendant le match récemment est quelque chose aussi dont nous avons un petit peu de mal à comprendre. Alors, appartenons-nous à ce monde? Sommes-nous en dehors de ce monde, puisqu'a priori différent? Évangile de Jean, chapitre 17, verset 9. « Je prie pour eux, dit Jésus. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. » Verset 11. « Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux restent dans le monde, mais moi je vais à toi. » Verset 13 à 16. « Je vais à toi et je dis ces paroles dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie. Je leur ai donné ta parole. » Et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mauvais. Croyant, chrétien, être ou ne pas être du monde ? Voilà notre question pour notre première étude biblique d'un cycle de 5 études dans le cadre de la semaine thématique 2008 de l'Église réformée d'Annecy, Sacrée laïcité. Et aujourd'hui, notre étude porte sur le chapitre 17 de l'Évangile de Jean. Bonjour à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Charlotte Gérard, pasteur de l'Église réformée, en poste à Annecy depuis l'été 2007. Et j'ai l'honneur de débuter aujourd'hui notre cycle d'études bibliques. Nous commencerons par entendre le chapitre 17 de l'Évangile de Jean, puis nous entrerons dans cet Évangile avant de considérer notre chapitre et plus particulièrement quelques versets que nous venons d'entendre et qui rejoignent notre problématique. Et nous terminerons par une brève synthèse avant de laisser place aux questions et aux débats. Nous écoutons maintenant donc le chapitre 17 de l'Évangile de Jean. Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie et que selon le pouvoir sur toute chair que tu lui as donné, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, et cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont observé ta parole. Ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, que les paroles que je leur ai données sont celles que tu m'as données. Ils les ont reçues, ils ont véritablement connu que je suis sortie de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyée. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi, et j'ai été glorifiée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux restent dans le monde, tandis que moi je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Lorsque j'étais avec eux, je les gardais en ton nom que tu m'as donné, je les ai protégés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le Fils de perdition, en sorte que l'Écriture soit accomplie. Maintenant je vais à toi, et je dis ces paroles dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie dans sa plénitude. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. Que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi. Qu'ils soient en nous, eux aussi, qu'ils soient afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, comme toi en moi, pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite et qu'ainsi le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, et qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé dès avant la fondation du monde. Père juste, tandis que le monde ne t'a pas connu, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. L'évangile de Jean. Ce livre est un évangile, c'est-à-dire un des quatre livres que l'Église a jugé authentique pour transmettre la bonne nouvelle de son Sauveur Jésus-Christ, mort et ressuscité. L'évangile de Jean est considéré en revanche un petit peu à part parmi les évangiles, par une christologie peut-être plus développée. Il s'est imposé dans la tradition chrétienne par la qualité de sa pensée théologique, mais raconte toujours, comme les trois autres, l'histoire de Jésus de Nazareth, apportant le salut aux femmes et aux hommes, avec les mêmes fondements que l'on retrouve dans les trois autres évangiles. L'évangile de Jean s'appuie sur la tradition, mais la dépasse. Il fait preuve de fidélité, mais aussi de liberté. Cet évangile témoigne d'une deuxième révélation, la révélation de l'Esprit. Ce que l'on appelle la première révélation est celle qui est donnée par Jésus lui-même pendant son ministère terrestre. Mais pour que la révélation soit complète, une seconde par l'Esprit est nécessaire, celle effectuée après la résurrection du Maître. Et elle seule permettra la pleine intelligence de la première. Cet évangile restitue donc à la fois la prédication de Jésus de Nazareth, mais aussi l'enseignement en clair de l'Esprit. Il restitue le souvenir des auditeurs et des témoins, mais aussi la contemplation qui est propre aux croyants. Cet évangile, dans son vocabulaire, défend la tradition de l'Église naissante par les outils de ceux qui l'attaquent. On peut y reconnaître la gnose notamment, ou encore la tradition vétérotestamentaire juive. Et tout cela pour dévoiler le mystère de Jésus. C'est un enseignement théologique approfondi du mystère du Christ Jésus à des chrétiens qui ont besoin à ce moment-là d'être fortifiés dans leur foi. Quand et où ? Cet évangile a été probablement écrit en Asie mineure autour des années 100 après Jésus-Christ, dans des communautés croyantes, pour des lecteurs dont la foi est naissante. Qui est l'auteur ? Qui est ce Jean ? L'auteur se désigne lui-même comme le disciple bien-aimé. Vous avez peut-être déjà entendu ce nom, mais bien des mystères tournent autour de cet auteur. Puisque nous sommes à la fin du siècle et que l'auteur se dit d'un âge avancé, il est bien possible qu'il ait été un contemporain de Jésus. Certains le voient comme Jean, le fils de Salomé et de Zébédée, qui est le frère de Jacques, un pêcheur d'une famille aisée qui fait partie des premiers disciples. Il sera toujours difficile de préciser l'identité des auteurs des récits bibliques. Ce qui est important est que l'auteur ait voulu être un témoin anonyme qui veut partager sa foi. Et tel, il doit rester pour nous. Il n'a pas écrit cet évangile pour que nous nous penchions sur son identité, sur sa personne, mais pour que nous croyions que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie par son nom. Jean 20, verset 30. Alors le chapitre 17, pour aujourd'hui, clôt un grand ensemble que l'on appelle les discours d'adieu de Jésus à ses disciples. Des chapitres 13 à 17. Et ces chapitres-là donnent toute la clé de compréhension de l'Évangile. Cette seconde partie de l'Évangile dépeint la révélation du Christ devant les siens. Les 12 premiers chapitres témoignent de la révélation du Christ devant le monde. Vous l'avez remarqué à la lecture du chapitre, seulement quelques versets nous parlent de notre relation au monde en tant que chrétiens. Mais pourtant, il est important de considérer d'abord ce chapitre dans son ensemble. Vous savez bien que le sens de quelques versets doit toujours être défini dans un contexte plus large. Et ce chapitre 17, vous l'avez peut-être reconnu, c'est une prière. C'est la prière de Jésus à son Père pour ses disciples, qui est donc à considérer dans son ensemble. Juste avant cette prière, il y a l'annonce de la mort de Jésus. Et ensuite, cette prière va clore son ensemble de discours d'adieu à ses disciples et sera suivie par son arrestation. Nous sommes donc avec cette prière au cœur de la fin du ministère de Jésus sur terre, avec ses dernières paroles à son Père, comme passage de témoin. Au début et à la fin du chapitre, Jésus dit à son Père « Je suis à toi, tu me les as donnés, maintenant nous sommes un. » Au milieu de la prière, il dit « Ils ne sont pas du monde, mais aussi « Je ne prie pas pour les ôter du monde. » Et ce passage qui nous intéresse se situe encore lui au cœur de cette prière et lui donne toute son épaisseur. Une petite parenthèse pour donner ici l'écho de la dimension d'unité, vous l'avez entendu, très présente dans cette prière, qui nous donne notre mission de disciples. Que tous soient un, ut unum sint. Certains l'ont peut-être reconnu aussi, qui avait été l'appel du deuxième concile œcuménique du Vatican par Jean-Paul II en 95. Fin de la parenthèse. On peut séparer ce chapitre 17 en trois grandes parties. Les 8 premiers versets, Jésus et le Père. Jésus prie pour sa glorification et rappelle toute l'œuvre qu'il a accomplie. Une deuxième partie, à partir du verset 6 jusqu'au verset 19, Jésus et ses disciples. Jésus va prier pour ses disciples en demandant protection et consécration. Et une dernière partie à partir du verset 20. Jésus et les autres. Il va prier pour l'unité et la communion. Je vous propose maintenant de nous focaliser sur ces quelques versets, la seconde partie du chapitre, où la relation des disciples au monde nous intéresse aujourd'hui dans notre thème sur la laïcité. Verset 6. « Les hommes que tu m'as donnés du milieu du monde, dit Jésus. » Les disciples sont donc bien du monde, parmi le monde, nés dans le monde, c'est leur identité. Encore au verset 6, « Ils étaient à toi. » Autre identité. Les disciples appartiennent à Dieu. Ils sont au monde, ils sont à Dieu. Dès le début de notre passage, la messe est dite. Les disciples, et donc chaque chrétien, est du monde comme il est à Dieu. Ces deux identités ne sont pas contradictoires, ne s'affrontent pas. Elles cohabitent dans notre texte de façon littéraire, comme dans nos vies de façon pratique. Alors certains, c'est vrai, font la distinction en disant que les chrétiens sont physiquement dans le monde, mais spirituellement hors du monde. Je crois que c'est aller trop loin. Nous sommes bien aussi spirituellement dans le monde. Nous sommes humains et donc pécheurs. Nous appartenons bien au même monde, même dans notre esprit, car notre esprit reste pécheur. Mais à la fois nous appartenons à Dieu, car Dieu a eu pitié de nous en Jésus-Christ et nous a tout pardonné pour nous appeler ses fils et ses filles. Véritable double identité donc, du monde et de Dieu. Au verset 9, « C'est pour eux que je prie, dit Jésus, je ne prie pas pour le monde. » Ici, le monde est clairement exclu de la prière. Alors, qu'est-ce donc que ce monde ? Jean qualifie de monde tous ceux qui ont refusé la lumière du Christ, qui l'ont rejeté, et ceux qui ont rompu tout contact avec Dieu. Toutefois, et encore là j'insiste, il est important de ne pas se limiter à un seul verset pour déduire une compréhension globale. Et si on regarde d'autres versets chez Jean, Jean 3, verset 16, un verset bien connu, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Où là, une attitude favorable de Dieu envers le monde est décrite. À la fin de notre chapitre, il y a aussi l'appel à la mission des disciples dans le monde. Là encore, attitude favorable. Il n'en reste pas moins que l'opposition au monde doit s'entendre. Alors de quelle façon ? Comme un avertissement pour la suite, les disciples vont sans doute rencontrer de l'incrédulité. Comme un rejet de ce que le monde peut offrir, comme il est dit dans une épître de Jean, convoitise de la chair, convoitise des yeux, confiance orgueilleuse dans les biens ne vient pas du Père. Comme insistance pour dire que Jésus n'est pas du monde, il dit lui-même dans sa prière qu'il rentre chez lui. Alors si Jésus n'est pas du monde, ses disciples non plus. En Jean 15, nous lisons « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï le premier. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui lui appartient. Mais vous n'êtes pas du monde, parce que je vous ai mis à part du monde. Voilà pourquoi le monde vous hait. » Il est clair ici que la demeure de cette communauté joannique est aussi au ciel. Les références de Jean au monde qui est exclu témoignent déjà d'une difficulté à transmettre le message de l'Évangile. Que les auditeurs soient juifs ou païens, le mot « monde » semble englober tous ceux qui refusent ce nouveau message. Verset 11. « Je ne suis plus dans le monde, dit Jésus, mais eux sont dans le monde. » Jésus évoque ici la situation post-pascale, Quand lui retourné vers le Père, les disciples seront seuls et devront poursuivre sa mission dans le monde. Car c'est bien le monde qui est le terrain et la terre qui pourra recevoir le message. Versets 14 à 16. Le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne prie pas pour les ôter du monde, mais pour les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Le départ de Jésus crée la joie chez les disciples, par cette seconde révélation qu'ils vont connaître après la résurrection, comme nous avons dit tout à l'heure. Mais son départ crée aussi la haine du monde. Les disciples, se référant désormais au Christ, ne vivent plus selon les règles et les valeurs du monde. En ce sens, ils ne sont plus du monde. Mais ce fait-là ne signifie pas pour autant qu'ils vont quitter le monde, échapper à leur condition humaine et historique. C'est le malentendu possible que dissipe le verset 15 « Je ne prie pas pour les ôter du monde ». Toute idée de fuite du monde est ici clairement battue en brèche, mais pour les garder du mauvais. On aimerait peut-être ici en savoir plus sur ce mauvais. Qu'est-ce que ce mauvais dans le monde? Que signifie-t-il? Si l'on regarde le grec, c'est soit un masculin, on pourrait alors traduire par le prince du monde, soit un neutre, qui serait alors le concept du mal. Mais il n'y a pas vraiment ici d'enjeu d'interprétation. Il s'agit pour Jésus de prier Dieu pour ses disciples, qui vont vivre maintenant seuls dans le monde, qui est complexe, ambigu et menacé par le mal. Et face à cela, Jésus en appelle à l'unité dont nous avons parlé tout à l'heure. Cette unité entre croyants trouve son fondement dans l'unité du Père et du Fils, qui se manifeste dans la révélation et crée l'amour mutuel. Les disciples restent dans un monde hostile, mais la prière de Jésus ne demande ni la fin du conflit, ni la possibilité d'y échapper, mais la capacité de l'affronter sans y succomber. Versets 17 à 19, « Consacre-les, sanctifie-les dans la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. » Le verbe « consacrer »,« sanctifier » selon les traductions, désigne l'action de mettre à part pour devenir pleinement la propriété de Dieu, pour être dans une relation de proximité avec lui. Une fois que l'on est enraciné en Dieu, cela ne signifie pas que l'on s'éloigne du monde, mais c'est au contraire le bon moment pour y être envoyé. À la mission historique du Fils qui s'achève, la mission de la communauté dans le monde fait suite. L'ouverture au monde est ici clairement mentionnée. Le monde est invité à venir rejoindre le cercle des disciples. Pas de fatalité de rejet de la part du monde, mais une espérance qui est ici donnée par Jésus-Christ. Il est important de dire, pour finir sur ces quelques versets de la relation au monde vue par l'évangile de Jean, que malgré certaines apparences, peut-être, nous ne sommes pas ici dans une simple opposition Église-monde, mais plutôt devant une antinomie ouverte, propre à cet évangile, entre ceux qui ont déjà reconnu Jésus, ceux que tu m'as donné, les appelle Jésus, et ceux qui ne l'ont pas encore reconnu, le monde. Pour donner quelques brèves conclusions, je dirais que la conception de la relation au monde de ce passage de Jean a quand même deux grands écueils aujourd'hui. Le premier, l'insistance d'un monde hostile renferme certains chrétiens sur eux-mêmes, qui refusent et du coup abandonnent ceux du dehors. Le second, qui est à son inverse, la distinction des chrétiens avec le monde contrarie certains autres chrétiens qui, eux, sont très conscients d'une mission envers le monde, qui ne peut s'effectuer, d'après eux, qu'en infiltrant ce monde et en étant comme lui. Le quatrième évangile reste en tous les cas une mise en garde contre trop de facilité. Le monde n'est pas un terrain neutre et en friche qui attendrait bien sagement et avec impatience la semence de l'évangile. Ce fut sans doute avec la conviction initiale de l'amour du Père pour tous que la communauté joannique s'est tournée des Juifs vers les païens, puis a réalisé par la suite que les autres, c'est-à-dire le monde, préfèrent les ténèbres à la lumière, comme il est dit dans l'Évangile. C'est avec, je crois, cette lucidité, mais aussi avec l'espérance que Jésus donne, que nous, chrétiens, devons toujours continuer à porter témoignage au monde. Je ne terminerai pas sans dire que ce texte a tout de même, vous l'avez bien reconnu, un accent peut-être qualifié de prosélyte par certains, qui peut en faire frémir plus d'un. Dans notre société laïque actuelle, de pluralisme religieux et de combat pour la connaissance et la tolérance de chacun, ce n'est manifestement pas un texte que nous mettrions en avant dans nos dialogues interreligieux. Il n'en demeure pas moins que ce texte nous rappelle, à nous chrétiens, notre place dans le monde et le témoignage que nous avons à y porter, malgré tout. Chrétiens, disciples d'aujourd'hui, nous sommes clairement du monde et vivant dans le monde. Ici, à Annecy, en République française, nous vivons bien reconnaissants sous le régime de la laïcité, qui donne a priori la liberté d'opinion religieuse et de culte à chacun, dans le respect de tous. En même temps, et sans que cela ne soit contradictoire, nous appartenons à Dieu par le Christ. Cette appartenance nous appelle à vivre dans l'unité avec les autres chrétiens, sans fuir le monde, et sans, et là je fais un ajout personnel par rapport à notre texte, condamner les autres religions. Notre appartenance nous rassemble autour de valeurs qui diffèrent souvent de celles du monde, et dont nous devons témoigner malgré les hostilités inévitables. Être ou ne pas être du monde, sacrée laïcité, était le titre de cette première étude biblique de notre semaine thématique. Eh bien, je terminerai maintenant. Chrétien en République française, être et ne pas être du monde. Voilà notre credo. Ainsi soit-il. Merci. Voilà, il est 13h, donc j'ai exactement respecté, je suis très fière de moi. Voilà, donc maintenant nous avons une demi-heure pour entendre vos questions, vos remarques et débattre de cette étude biblique, de ce 17e chapitre de l'Évangile de Jean. La parole est à vous.
Charlotte, je te remercie. Personnellement, je suis tout à fait en harmonie avec ce que tu viens de dire.
Merci.
Consacré, mais dans le monde.
Mais alors, moi, maintenant, je voudrais des recettes. Des précisions concrètes. Enfin, sur l'idée, je suis complètement d'accord. Mm-hmm. Mais après, dans les situations concrètes, j'ai du mal à raccorder ça. Mais c'est peut-être à nous à tous à chercher ensemble et voilà.
Alors c'est vrai que je n'ai pas vraiment de recette miracle, je suis désolée. Mais c'est vrai que c'est des questions au quotidien, comme tu dis. Je reprends cette histoire de la réflexion de la maman à son fils. C'est quelque chose. Et c'est vrai que quand on peut être témoin de ça, ou quand des gens autour de nous en sont témoins, et qu'il y a une réaction, ben voilà, nous ça peut être l'occasion de dire ben, peut-être que toi tu ne devrais pas faire ça. Parce que nous, on peut. C'est pas bien grave, il y a d'autres valeurs qu'on partage aussi. Je crois que c'est vraiment sur des toutes petites choses du quotidien. Je vois avec mes enfants à l'école, on se rend, on se tape, on se voilà, des petits détails comme ça. Il dit ben non, ça, ouais. Pour nous, enfin bon, alors c'est pas toujours facile. Hein, on se dit ben de notre côté, faut pas se laisser faire. C'est pas facile. C'est pas facile et c'est un combat entre guillemets de tous les jours. Je sais pas si j'ai bien.
Mais il n'y a pas besoin d'être chrétien pour être un humain responsable et solidaire.
Tout à fait.
Ah oui.
Tout à fait. Hein? Tout à fait. Mais.
Alors qu'est-ce qui fait justement que.
Alors là, je crois que toute la nuance, c'est après au niveau du témoignage. C'est-à-dire qu'au niveau de notre être, de nos réactions humaines, effectivement, il y a des gens qui ont des valeurs d'amour et de pardon, sans être du tout chrétien, hein, et qui sont tout à fait admirables.
Et de respect de l'autre.
Et de respect, voilà. Donc ça, c'est sûr. Donc ça, c'est un premier stade. Et puis, nous, il y a un deuxième stade, c'est que ces valeurs-là, pour nous, viennent du Christ. Et sont pour nous l'enseignement que le Christ nous a donné. Alors que, peut-être pour ces personnes qui n'ont pas cette foi en Jésus-Christ, c'est des valeurs humaines, des valeurs morales, des valeurs de bien vivre, voilà. Mais pour nous, ces valeurs-là, qui sont les mêmes, on les rattache à un enseignement et à une foi en Christ, qui pour nous est aussi un attachement spirituel. Voilà, c'est peut-être ça. Alors après, où placer la frontière? Enfin, où, à partir du moment où on dit, voilà, c'est mieux de faire comme ça ou de réagir comme ça, et après on passe parce que, moi, je crois que Jésus-Christ m'a donné la vie et que Jésus-Christ nous a appris à s'aimer. Voilà, je crois qu'il y a deux pas, là. Il y a deux niveaux. Et c'est vrai qu'après, le niveau témoignage est peut-être plus délicat, plus. On a peut-être plus de mal à passer à ce niveau-là. Ça, j'en suis bien consciente.
Mais dans la laïcité que nous devons vivre maintenant, aujourd'hui et demain, Jean, il est loin. Hein. Je veux dire, ce que. J'ai vu du petit bien en vous écoutant, mais je me dis, je pensais que je ne vois pas comment vivre une vraie laïcité en étant fidèle à Jean aujourd'hui, pas quand.
Alors effectivement, comme je disais, ce texte, ça ne serait pas vraiment un texte qui pourrait apaiser nos relations communes en laïcité. Tout à fait. Mais d'un autre côté. Bon, c'est un texte biblique qui doit aussi nous parler. C'est un texte qui nous dit qu'il faut qu'on aille témoigner dans le monde. C'est pas quand même catastrophique. Enfin, c'est, a priori, il redit des choses dont on a l'habitude et qui est notre fondement de disciple. Alors, qu'est-ce que veut dire maintenant témoigner dans le monde? C'est peut-être ça la question. Est-ce que c'est aller forcément dans la rue chanter « Je crois en Jésus » Est-ce que c'est quand on parle avec un voisin et qui est dans la détresse, dire « Ben voilà, moi ce qui peut m'aider, c'est ma foi » Je sais pas. Après, où se situe le témoignage? Mais ce que dit Jean, moi je trouve pas ça. Enfin, ça redit des choses quand même évidentes en tant que disciple. On a quand même apporté un témoignage. Le témoignage fait partie de notre identité. Notre foi, on ne doit pas la garder pour soi tout seul. Hein. Ça, c'est notre mission, c'est bien de proclamer cette bonne nouvelle et pas juste au culte dimanche matin, savoir le proclamer en dehors. Mais ça, c'est très compliqué et je suis bien d'accord avec vous. Mais quand même, il faut que ça reste dans notre tête quelque chose qu'on doit mener. Hein.
C'est très compliqué et en même temps, l'esprit ne s'est pas arrêté de travailler à la fin de la rédaction des évangiles. Hein. Je veux dire, l'esprit continue là, et donc on a une aide. On n'est pas tout seul, livré à notre pauvre imagination qui des fois est en panne pour trouver des moyens, à notre pauvre énergie qui des fois est fatiguée. Donc moi, je crois que on a un témoignage à porter, mais par rapport à des gens qui souhaitent vivre les mêmes valeurs de solidarité, d'humanité, nous, peut-être, ce qu'on a en plus, mais comme un trésor, c'est la joie de savoir que si on le fait, on le fait à cause de lui et que lui, il est en train de le faire tout de suite. Et qu'en fait, c'est comme ça.
Il le fait en nous.
Il le fait en nous et dans l'autre.
Eh oui.
Et que là, il y a comme des clins d'œil. Il y a des signes de connivence qui rendent très joyeux.
Parce qu'on entend souvent parmi nos familles et tout, tu as la religion, mais qu'est-ce que tu fais de plus que moi? Moi, je fais autant de belles choses que toi.
Bien sûr.
Voilà. Bon, ça, c'est bien.
Alors, il y avait deux prises de parole, là, monsieur et puis madame. Allez-y, monsieur. Comme vous, allez-y, madame.
Moi, pour la relation à l'autre, le bien vivre ensemble, ça me paraît encore pas plus facile. Bon, mais j'entends bien. Mais après, dès qu'on parle de solidarité, défendre des causes plus humaines, qui nous dépassent, on entend beaucoup de chrétiens qui disent « Ah non, ça s'arrête là, on ne fait pas de politique. » Alors moi, c'est « Est-ce qu'il y a des contradictions ?» Sans prendre parti pour l'un ou l'autre, mais est-ce que là aussi, on a une responsabilité, laquelle ? Parce qu'il y a un frein, une peur, et moi, je ne sais pas très bien comment gérer ça.
Alors ça, c'est sûr que là encore, il y a une marche supplémentaire, je dirais, entre ce qu'on peut faire avec notre famille, nos amis, nos proches, nos frères et sœurs en Christ, hein, et puis ce qu'on peut faire en politique, au niveau beaucoup plus engagé, dans des engagements beaucoup plus larges. Et là, il y a des blocages, ça c'est certain. Je crois qu'il n'y a pas de règles, hein, et que c'est à chacun de trouver ou de se sentir à l'aise dans tel ou tel engagement. Mais moi, je ne dirais pas il faut s'engager en politique ou il faut s'engager en humanitaire ou il ne faut pas. Voilà. Je crois que c'est à chacun de juger selon son passé, selon ses convictions, parce que c'est pas donné à tout le monde non plus de se lancer dans des choses comme ça. Mais il faut aussi évidemment des chrétiens qui soient engagés dans ces milieux-là. Mais je crois qu'il n'y a pas de règle là. C'est vraiment à chacun de sentir sa forme d'engagement. Monsieur ?
Oui, j'ai de plus en plus conscience qu'étant un être humain né dans le monde, j'ai par nature la façon de penser et d'agir du monde, par nature. C'est donc ma première réaction. Mais ayant la foi, j'ai aussi une relation avec l'Esprit de Dieu. Et j'essaye, je ne dis pas que je réussis à tous les coups, j'essaye de prendre le temps de demander à l'Esprit-Saint « Qu'est-ce que tu en penses ?» Parce que j'ai ma pensée, j'ai ma façon de penser, mais la sienne. Sinon, ça va être la mienne qui va fonctionner.
Je crois que vous avez tout à fait raison. C'est un petit peu ce que j'ai dit, on est vraiment dans les deux. Hein. On est humain, donc on reste pécheur, faillible, avec nos pensées qui sont accordées avec tout ce qu'on entend, toute notre société, notre façon de fonctionner. Et à la fois, on se dit, ben, quand même, on a d'autres valeurs qui nous sont offertes. Je crois que c'est vraiment ça. Luther disait, à la fois pécheur et pardonné. Sans arrêt. On a toujours je dirais pas lutter, mais on a toujours à se remettre en marche. Hein, et qu'est-ce qui serait bien là de dire ou de faire, et comment je pourrais m'y prendre pour que ça soit avec le plus de respect, de tolérance, d'amour possible. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de quotidien. C'est pas une fois pour toutes. On se dit, ben voilà, ça y est, maintenant je suis chrétien, ça va se faire tout seul. Je crois que c'est du renouveau à chaque minute presque. Hein. Ça, c'est sûr. Je crois qu'il y avait d'autres questions vers le fond. Nicole.
Moi, je veux dire, par rapport à une des interventions qui... il me semble qu'on oppose systématiquement la laïcité avec donc les religions. Ça me semble une erreur. La laïcité, c'est un cadre. Là, c'est un cadre qui permet de vivre ensemble, mais qui est à un niveau complètement différent des convictions religieuses. Et par rapport à l'engagement dont tu parlais tout à l'heure, il me semble que quand même la laïcité nous invite à un engagement citoyen pas forcément politique et pas forcément dans le même cadre, hein, qui va quand même assez bien avec cet engagement que nous invite à voir l'Évangile aussi.
Alors effectivement, je crois que là, c'est deux lignes, hein, deux routes qui sont en parallèle, la laïcité et la religion, qui ne sont pas pour ceux qui sont contradictoires. Et d'ailleurs, il faut, je redis, hein, nous protestants, vive la laïcité, hein. Parce qu'à l'origine, grâce à la laïcité, c'est grâce à la laïcité que nous avons pu avoir l'autorisation de pratiquer notre foi et de construire nos temples et de vivre notre foi. Parce qu'avant, la religion catholique était la religion d'État. Hein, on est bien d'accord. Hein. Donc pour nous, protestants, on est vraiment contents. Et le jour où la République ne sera plus laïque, ça nous posera un sérieux problème à nous, protestants. Hein. Donc ça, c'est très important. De notre côté, donc, c'est vrai qu'il y a cet engagement citoyen. Mais je rebondis un peu sur votre question, madame. Le risque, parfois, c'est de se dire, j'ai mon engagement citoyen par rapport aux options politiques dans ma ville, dans mon pays. J'ai mon engagement chrétien. Est-ce que ces deux choses-là sont en lien? Est-ce que c'est cohérent?
Oui.
Oui, oui, mais ça peut être, ça, parfois, ça ne l'est pas.
Hein?
Est-ce que nous, ou alors peut-être pas dire est-ce que c'est cohérent, mais où est ma cohérence, hein? Voilà. C'est pas deux choses, il faut pas mettre des lornières. D'un côté il y a mon engagement citoyen, de l'autre côté mon engagement spirituel ou religieux. Il y a quand même, ces deux engagements font partie de notre personne, et il faut trouver cette cohérence là qui est importante.
Puis il est bon de savoir, d'après un sondage IFOP qui est apparu là il y a 3-4 jours, la laïcité est l'une des valeurs républicaines les plus importantes pour les Français. Je dis Français. C'est quand même une valeur.
Bon, alors après, il faut voir qu'est-ce que les Français mettent derrière la laïcité. Parce que parfois, c'est pas vraiment ce qu'on y met, nous. C'est aussi ça. Jean-François ?
Donc, pour aller dans le prolongement de ce que vous dites, j'ai pas le sentiment que la laïcité et la religion soient différentes. Si on relis l'histoire d'église dont on partage, catholique et protestant une partie, en ce moment je travaille sur l'histoire des vaudois, on s'aperçoit que ce qu'on a appelé la revendication laïque, c'était un moment donné où justement dans l'église s'affirmait au contraire le pouvoir des clercs. Et cette revendication elle était faite pour quoi? Elle était faite pour l'annonce de la parole libre par tous. Donc il me semble qu'au contraire, laïcité et annonce de sa foi, ça va vraiment ensemble, et si on revenait aux sources de qu'on appelle la laïcité, c'est-à-dire la restitution à tout le monde de la capacité d'être ministre à sa façon et dans son domaine, il me semble qu'on serait dans un bon registre. Alors effectivement, depuis 103 ans, on est un petit peu, ou même depuis la Révolution, on a une autre histoire qui nous a traversés, mais pour des églises européennes qui n'ont pas vécu ça, je pense qu'ils peuvent revenir à l'histoire de l'église primitive, au moins jusqu'au Moyen-Âge, où on partage tout à fait le fait que être laïque, c'est avoir la capacité d'être pleinement chrétien, donc d'être pleinement ministre du témoignage.
Exactement. Très bien.
Tout à fait. Mais c'est vrai que je crois qu'aujourd'hui, cette compréhension n'est pas unanime. Hein, il y a beaucoup de gens pour qui laïcité, pour eux, c'est un refuge pour se placer contre les religions, contre les églises. Et quand on est laïque, ça veut dire qu'on est anti-religieux et qu'on met de côté, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Même tout près de chez nous, hein, dans notre ville, parfois on nous dit je me présente au pasteur, excusez-moi, je suis laïque. Moi aussi, je veux dire, c'est quand même, on est tous d'accord ici, mais il faut être conscient que c'est pas partagé. Et ça, on a un effort à faire, voilà. La laïcité, nous, on est tous laïcs, hein, et on est bien content de l'être.
Moi, je trouve aussi que chez les chrétiens, il y a aussi une faute, parce qu'il y a quand même des chrétiens qui sont très hermétiques, qui refusent aussi la laïcité complètement, qui la condamnent.
Oui.
Il y a quand même des intégristes dans ce sens-là, et ça, je trouve que c'est aussi une part des chrétiens qui sont fautifs de cet état-là.
Voilà, alors il y a aussi l'excès...
Pas toujours remettre la faute sur les gens non-croyants, il y a aussi les croyants qui donnent des contextes aussi où on
rejette le...
On déforme.
C'est vrai qu'il y a un gros travail à faire sur le sens.
Il y a un travail à faire, parce qu'il y a des chrétiens comme moi, en ce moment, je suis refroidie par le fait de pratiquer, de fréquenter des groupes religieux. Ça me fait peur.
Mais je crois qu'effectivement, là, il y a un gros travail sur
c'est mon cas.
Bien sûr, sur les valeurs de la laïcité, que ce soit du côté des citoyens athées, que même du côté, comme vous dites, des personnes qui sont en communauté,
oui.
Il y aurait un gros travail à faire sur ces valeurs-là qui ne sont pas contradictoires avec notre foi. Et au contraire, pour nous qui nous ont sauvés.
Et beaucoup de chrétiens disent pas la prière, je suis d'accord, mais qui ne veulent pas, qui refusent le social, par exemple, parce que par la prière, on peut tout, peut-être qu'on peut tout par la prière, je veux bien croire. Mais il y a aussi le refus aussi de participer à ce monde.
Voilà, alors là, c'est vrai que
alors
c'est...
là aussi, ça existe.
Ça, bien sûr, ça existe. Là, on s'engage dans un autre débat qui est très intéressant, mais qui n'est pas vraiment ce débat-là, qui est de dire, on a notre spiritualité, mais on a aussi notre présence dans le monde. Voilà. Donc, tenir les deux en même temps. Et ça, c'est important, c'est vrai.
Catherine. Une chose que je voulais dire, c'est que quand le sujet avait été choisi, sacré laïcité, c'était justement pour montrer l'opposition qu'il pouvait y avoir, ou au contraire, montrer le monopole que cette laïcité pouvait avoir, et qui, de ce fait, pouvait avoir tendance à niveler, justement, tout le respect de toutes les différentes professions. Donc c'est pour ça que le titre avait été choisi dans ce sens.
Oui, parce que c'est
sacré. Mais sacré, oui, mais c'est très bien.
Espèce de rôle de rouleau compresseur qui pouvait au contraire, qui voulait tout aplanir, enfin aplanir.
Et puis que c'était pas forcément un terme évident, sacré laïcité, que c'était compliqué, qu'on le comprenait tous de façon différente.
Ça pouvait opposer même.
Est-ce qu'il y aurait d'autres interventions? Oui.
Au propos du mot sacré, Jacques Ellul dit que la religion chrétienne est la seule religion qui n'a pas de sacré par l'incarnation. Par l'incarnation, on fait partie du monde. C'est pour ça qu'il n'y a pas un sacré en dehors du monde.
D'accord, oui.
On dit bien aussi sacré démocratie, souvent.
Oui, madame.
Moi, je suscite une religion parce que c'est le message de l'évangile, c'est pas la religion. C'est le problème.
Alors, effectivement.
La laïcité et religion, alors il y a les religions, même des religions chrétiennes, mais le message, et c'est ce que le passage des gens porte, quel est ce message? Alors, comment ce message peut-il être partagé dans la laïcité? Et le message, c'est repentez-vous, croyez au Seigneur Jésus pour se sauver. C'est ça la raison d'être de l'être des chrétiens aujourd'hui, et la raison qui donnera que la personne pourra trouver le vrai bonheur, de savoir qu'il sera vraiment aimé et pardonné, et ça n'existe qu'en Jésus-Christ. Alors, il y a cet impératif que en Jésus-Christ qui fait le problème, bien entendu, et les conflits. Mais si on se place au niveau religion et laïcité, alors on peut débattre pendant longtemps, mais quand on pense au message qu'apporte l'évangile et la texte, et je crois qu'aujourd'hui c'est ça auquel l'être le chrétien est confronté, pas au niveau de la religion, il est confronté au niveau du message. Et il est porteur de ce message que c'est une soif d'amour et de pardon. Et de dire au fond de moi, mais cet amour et ce pardon que tu cherches, c'est seulement en Jésus. Voilà. Mais dans le cadre de la laïcité, c'est-à-dire dans le respect absolu de l'autre religion, de l'autre. Mais de penser qu'autour de moi, il y a des gens qui cherchent. Mais d'être amené à porter ce message, celui qui cherche, dans le respect de sa religion, de sa propre choisie.
Merci. Alors je crois que c'est très intéressant. Effectivement, les religions sont une chose, hein. Les religions sont des créations humaines, hein. Il a fallu mettre un cadre autour de ce message pour pouvoir le porter, mais il n'en reste pas moins que le cœur, c'est bien ce message-là dont vous parlez, ce message d'amour. Bon, alors là, on entre dans un autre débat qui serait le débat sur la vérité. Est-ce que moi, en tant que chrétien, je dis, voilà, il n'y a qu'en Jésus-Christ que tu peux trouver cet amour-là. Peut-être que mon voisin juif ou musulman va me dire, ben écoute, pour moi, non, pour moi, il n'y a que dans le Coran que je trouve cette... Vous voyez ? Donc après, quelle est notre position ? Moi, je vais pas... On n'est pas là pour donner une position. Chacun, en âme et conscience, peut prendre la sienne. Mais est-ce qu'on dit... C'est ma vérité, c'est ce qui me fait vivre, et ça c'est important de le dire, et nous devons en témoigner. Hein, moi, pour moi, c'est la foi en Jésus-Christ qui m'a donné la vie, et c'est cette foi-là qui me permet de partager cet amour et ce pardon. Mais est-ce que je passe au stade suivant, qui est, c'est la vérité, et elle doit être la vérité pour tout le monde. Voilà, il y a deux stades, c'est à chacun de prendre sa place ici. Est-ce qu'on dit « ma vérité c'est Jésus-Christ, ce n'est peut-être pas la tienne, mais moi j'ai envie de t'en parler » et là on peut en témoigner, ou est-ce que je dis « Jésus-Christ est la seule vérité » Voilà, je crois que c'est...
Lui-même a dit « qu'est-ce que la vérité ?»
Si on en revient à l'amour de Dieu, tout le monde est capable d'écouter et même d'accepter, plus ou moins, que Dieu l'aime.
Oh non.
À partir du moment
s'il vous plaît.
On dit à quelqu'un Dieu t'aime, il faut pour le prouver. Et comment Dieu a-t-il prouvé son amour? On en arrive obligatoirement à Jésus-Christ sur la croix. n'y a pas d'autre preuve d'amour que Dieu que celle-là. Mm-hmm. Et c'est là, je pense que ce que vous dites, les deux stades, le premier stade, avec n'importe qui, de n'importe quelle religion, on peut parler de l'amour de Dieu.
Moi, je répondrai par la parole d'Isaïe, parce que dire Dieu à quelqu'un qui est vraiment allergique, moi je dirais, ton nom est inscrit et gravé dans les paumes de mes mains. Moi, j'aime beaucoup quand je fais un rapport avec des gens qui ne veulent pas entendre le mot Dieu,
oui.
Et on dit, bah, de toute façon, comme tu crois ce que tu veux. Mais moi je crois que ton prénom, ton nom est gravé dans les paumes de Dieu, dans les paumes de tes mains. Je dis dans tes paumes de mains, je ne dis pas que c'est Dieu. Je te dis, allez voir dans Isaïe, tout ça. J'aime bien, et le mot Dieu, des fois, ils ne veulent même pas l'écouter, le mot Dieu. Ils le rejettent.
Oui, c'est vrai.
Donc, faire attention, prononcer le mot de Dieu avec des gens qui sont allergiques. Ça leur donne des boutons. Donc, il ne faut mieux pas employer le mot Dieu. Moi, j'ai des problèmes avec ma famille comme ça. Hein. Je suis la seule croyante pratiquante.
C'est vrai, je crois qu'il y a, des difficultés, même tout simplement à parler de l'amour de Dieu. Hein. Dire à quelqu'un Dieu t'aime, ce n'est pas forcément facile.
Il ne veut pas. Il ne croit pas.
Donc je crois qu'il faut... On a beaucoup à travailler sur l'écoute, sur la connaissance de l'autre, sur... Il faut cheminer, je crois, beaucoup avant de pouvoir dire des paroles comme ça, même si effectivement on les croit et c'est important. Vous vouliez dire...
Moi je voulais dire qu'il faut démystifier un petit peu le mot laïque, parce qu'en ce moment, nous vivons aujourd'hui, le mot laïcité, laïque, est en train de braquer, enfin, je ne sais pas si mes antennes sont bien, j'ai l'impression qu'on se braque sur ce mot laïcité qui vient des sphères très hautes, et alors je trouve que cette semaine tombe à pic, si on pouvait un petit peu se débraquer sur le mot laïcité.
Je sais pas si vous... On va essayer, on va s'y employer. Mais je crois que à la fois, c'était peut-être vrai il y a quelques années, il me semble qu'il y a un chemin qui est en train de s'ouvrir quand même. Quand on entend les prises de position du président hein, à l'attran, bon, là on se dit, oh, ben, quand même, il y a des choses qui sont en train de se dégager. C'est plus aussi... Enfin moi, c'est ce que j'ai l'impression que c'est tout doucement en train de se débraquer.
L'Esprit Saint lui fait passer un message qu'il donne au peuple, mais ça ne veut pas dire que tout le monde l'a entendu ou que tout le monde l'entend. Mais ça va plaire.
Moi, je sais que j'ai fait de la pub cette semaine autour de moi, mais quand je disais sacré laïcité, bon, dis donc, quel sujet, quel sacré sujet. Ils ont envie de venir, même ils ne croient rien, mais ils ont envie de venir parce que sacré laïcité.
Ben, tant mieux.
Ah ben oui, moi j'ai fait de la pub tant que j'ai pu, mais alors sacré laïcité quand j'aurais dit le thème. Sacré laïcité.
Marie-Claire.
Oui, on a parlé, on en est venu à se braquer sur la laïcité parce que. Il y a un certain nombre d'attitudes religieuses qui semblent vouloir être imposées à une partie de la population. Alors pour éviter qu'il y ait cette espèce d'autorité religieuse, bon, prenons le port du voile que tout le monde connaît, hein, des choses comme ça, du coup on a redressé ce mot laïcité en disant on ne peut pas supporter qu'il y ait une autorité avec des rites, mais ça, probablement qu'il y a plusieurs siècles, ça se trouve aussi dans le christianisme. Hein. Mais disons que c'est à ce niveau-là qu'on sent qu'on a levé le drapeau de la laïcité à cause de ça. Donc si on arrive à comprendre qu'on n'est pas dans l'autoritarisme de ces attitudes, à ce moment-là, les choses se dégagent un peu.
Tout à fait. Oui. Merci. André.
Je prends train en route. Je suis arrivé très en retard, donc je n'ai pas parlé de ce mois, mais on peut s'inspirer dans Corinthiens 13 pour un petit peu faire le lien avec ce qui a été dit. Est-ce qu'il faut annoncer l'amour de Dieu? Dieu t'aime? Est-ce qu'on peut parler de Dieu? Je crois que l'amour parle sans que notre bouche soit ouverte. Lorsque je viens vers quelqu'un et que je l'aime, et que je lui manifeste dans sa détresse, dans son besoin, dans la multitude des choses de la vie, je crois que c'est pas la peine de parler. Nos actes, notre attitude, notre générosité, notre attention va parler. Et je crois que ça, c'est un ciment qu'il ne faut pas enlever. Parce que d'un côté, on prend Paul qui dit l'amour est patient, l'amour est honnête, etc. Les gens diront, vous les reconnaîtrez à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Je crois que le message est très fort et que sur ce plan-là, on a beaucoup plus de progrès à faire.
Merci. Je crois qu'effectivement, il y a un témoignage peut-être non verbal, on peut peut-être l'appeler comme ça, ou non explicite, qui est très très important. Mais de notre côté, je crois que tu n'étais pas là quand la question a été posée. Il y a aussi des gens qui ont ce respect pour les autres et cet amour sans avoir cette foi en Jésus-Christ. Et nous, on peut aussi faire le pas supplémentaire en disant, ben voilà, la façon dont je suis et dont j'agis, elle est enracinée en Jésus-Christ. Voilà. Donc c'est un petit peu les deux démarches. Jean-Marc, et puis je crois qu'on terminera sur ton intervention.
J'ai bien compris pourquoi tu avais choisi ce texte pour aujourd'hui.
Moi aussi.
Le mouvement d'un Jean, je n'avais jamais repéré ça avant aujourd'hui. On est du monde, on ne peut pas le nier,
ouais.
Et on est invité à y retourner. Alors il faut qu'on apporte quelque chose en plus. Voilà. Donc on le fait comme on peut, mais c'est surtout pas, on disait sacré, c'est séparation. Et en fait, la laïcité, ça ne nous sépare pas, ça nous mobilise. On est des laïcs, mais on est des laïcs chargés d'une mission. Voilà. Donc, merci d'avoir choisi ce texte pour aujourd'hui.
Pourquoi
l'avoir
choisi ? Merci beaucoup. Alors, juste avant de partager ensemble le dessert et le café, donc je vais repréciser la suite de notre semaine. Ce soir, il y a une conférence de Jean Bovéro sur donc la liberté, égalité, diversité. Quelle laïcité dans une France multiculturelle. Voilà. À 20h30 au temple, donc en bas. Demain, étude biblique, donc de 12h à 14h avec le rabbin Garay de Genève. Mercredi, même heure avec l'imam Ayari de la communauté de l'avenue du Rhône. Jeudi, il y aura Bernard Bidot, qui est responsable de la communication du diocèse. Et vendredi, Didier Arnaud, pasteur de l'église de Pentecôte. Voilà, et nous clôturerons par un culte famille dimanche prochain à 10h au temple. Merci à tous.
Je voulais dire un mot, parce que c'est une initiative qu'on a ensemble, qui est à la fois laïque, mais qui témoigne de l'écriture. Et on a peu d'inscrits, parce qu'on en reviendra, mais... Comme on s'est engagé un certain nombre de places, on a une nuit du cinéma et de la Bible le 12 avril prochain. J'ai ici des cartes parce qu'on fait des préventes, ça nous permet éventuellement de prévoir, ce qui est une collation. On peut voir 4 films et avoir un casse-croûte à 25 euros, ou 2 films et avoir un casse-croûte, ou alors on peut venir voir ce qu'on veut et on payera à l'entrée de la turbine.